Bonjour à tous, on va parler sport et aventure ce matin avec notre invité, le skipper chamoniard Aurélien Ducrot. Aurélien Ducrot, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder quelques instants. Alors donc, tu t'élanceras mercredi pour la route du Rhum depuis Saint-Malo en direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Alors Aurélien Ducrot, qu'est-ce que ça représente déjà cette route du Rhum de manière générale pour toi?
Oh ben, ça représente beaucoup de choses. C'est une course mythique de la course au large. C'est la plus réputée des transats, la plus difficile aussi. Donc non, ça représente beaucoup. C'est une chance incroyable de pouvoir être au départ de cette course, très clairement.
Est-ce que tu réalises justement, Aurélien, tout le chemin parcouru finalement quand on sait que tu n'as pas commencé la voile depuis si longtemps que ça,
hein? Non, effectivement, le chemin pour être au départ d'une route du Rhum, c'est loin d'être simple, entre guillemets, et donc il a fallu plus de 10 ans pour lancer cette histoire, lancer ce projet. Mais j'ai eu la chance d'avoir des partenaires à mes côtés hyper fidèles qui m'ont suivi du ski jusqu'à la mer aujourd'hui et qui m'ont donné la chance de pouvoir participer à cette course.
Quel est ton objectif cette année?
Alors, c'est ma toute première route du Rhum. J'avais fait plusieurs fois à Jacques Vabre. J'ai fait 4 fois à Jacques Vabre, mais c'est ma première route du Rhum. Donc, l'objectif, on a vraiment construit un chouette projet. On a un bateau magnifique. On a construit le bateau pour cette course. Le Cascarone Cross Call est un bateau hyper performant. Après, on a une concurrence de dingue. On est 55 concurrents sur cette course. Et donc, bien sûr, j'ai plein de rêves, plein d'ambitions. Maintenant, il faut se rendre compte de qui on a aussi en face de nous, de très très grands marins avec une expérience bien plus importante que la mienne, mais par contre on a tous les atouts, tu vois, on part sans aucune frustration avec les mêmes forces, je dirais, que les autres. Donc non, l'idée c'est d'essayer de perturber un petit peu les pronostics, on va dire.
Alors, on rappelle quand même ton palmarès, puisque tu as été, avant d'être skipper, il faut le préciser pour les auditeurs, double champion du monde de ski freeride. J'imagine qu'avec la voile, tu retrouves pas mal de similitudes, finalement, avec ta carrière de skieur qui ont pu te servir, ne serait-ce que dans ta préparation à cet événement.
Oui, effectivement, le fait d'avoir eu une carrière avant sur la gestion des grands événements, forcément ça aide, c'est juste connu. Après, les deux sports sont quand même franchement différents. En revanche, il y a quelque chose de très commun entre la mer et la montagne, c'est l'appréhension de l'élément en finale, la manière dont on va appréhender la mer, c'est un petit peu la même chose que de la manière dont on va appréhender la montagne, c'est-à-dire que c'est beaucoup de lecture, de compréhension, d'anticipation. Et c'est vrai que l'expérience de la montagne m'a énormément aidé là-dessus.
Tu navigues en catégorie classe 40. C'est quoi la différence pour bien comprendre avec les autres bateaux engagés?
Alors, il y a 4 catégories principales en fait sur cette course. Il y a les ultimes qui sont des maxi trimarans. Ils sont 7 au départ, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a des plus petits trimarans, des trimarans de 50 pieds. Après, on a les IMOCA, qui sont les bateaux du Vendée Globe. Ça, c'est des monocoques de 60 pieds. Et nous, on est les petits bateaux de la flotte, des voiliers de 40 pieds, donc qui font 13 mètres environ. Et voilà. Mais c'est des bateaux qui sont devenus extrêmement rapides, avec des formes un petit peu particulières. Ils sont très élargis sur l'avant, avec des avants roqués. Et aujourd'hui, on tient des moyennes que les IMOCA, les bateaux du Vendée Globe, tenaient en 2008, quoi.
Tu as conçu, hein, je crois, l'an dernier, un nouveau prototype de classe 40 pour cette route du Rhum, justement. Tu peux nous expliquer un petit peu?
Ouais, effectivement, on est parti d'une feuille blanche en 2020. Donc, on a dessiné ce bateau de A à Z avec le cabinet d'architecture Marc Lombard Yacht Design. Il a ensuite été construit à Caen, en Normandie, chez Grand Large Composite. Et ça a été une aventure extraordinaire, hein. Lancer le développement et la construction d'un prototype, c'était quand même un petit dossier, et qui est surtout sorti avec un bateau ultra performant qui aujourd'hui est clairement le plus polyvalent de la flotte et vraiment un des meilleurs bateaux. D'ailleurs, les meilleurs skippers qui se sont engagés sur cette course ont choisi notre même bateau. Donc, je suis pas l'unique, mais je suis le premier parce que derrière, les moules ont été réutilisés pour faire d'autres bateaux, dont Johan Richaud et Corentin Louguet, qui sont un peu les grands favoris de l'histoire. Donc, pour un skieur d'avoir développé un bateau, c'était déjà pas chose complètement logique et normale, mais en plus de ça, avec les meilleurs marins choisissent ce bateau-là, c'est une belle récompense.
Et c'est quoi sa particularité finalement? C'est de glisser sur l'eau comme tu l'as fait toi sur la neige?
Bah, effectivement, c'est un bateau un petit peu particulier quand on le voit, parce qu'au final, il est très inspiré d'une paire de skis, de ce qu'on a développé dans le ski il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'on a fait un rocker à l'avant, c'est-à-dire qu'on a l'étrave n'est plus du tout dans l'eau, l'étrave elle est 50 cm au-dessus d'eau, on a vraiment un avant très roqué, et puis des volumes très importants. Ce qu'on a développé d'une certaine manière dans le ski il y a 10 ans, en élargissant les skis et en mettant du rocker pour sortir de la neige plus vite, on a fait la même chose sur ce bateau pour sortir de la mer et ne plus avoir de frein en fait avec la mer, ou en tout cas le minimiser quoi.
D'accord. Alors, cette route du Rhum, hein, c'est l'arène des courses transatlantiques hein, en solitaire pour la présenter. Comment se passe un peu ton quotidien seul comme ça sur ton bateau? Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors, le quotidien en solo, c'est un quotidien un petit peu particulier. Le but, c'est bien sûr la performance. Donc, on fait en sorte de faire avancer le bateau le plus vite possible en permanence. La particularité, c'est qu'on n'a pas de jour, de nuit, de choses comme ça. Donc, on dort vraiment par intermittence. On se réveille toutes les 20 minutes environ. C'est des petites siestes de 20 minutes. Donc, on vit par micro-sieste. Et après, on essaie de rentrer dans ce rythme-là. Donc, il n'y a pas vraiment de jour, de nuit. On se réveille toutes les 20 minutes pour vérifier que le bateau soit toujours à 100% de ses capacités. On dort en gros 5-6 heures au final par jour, mais par ces petites tranches de 20 minutes. Donc voilà, donc la première chose, c'est la performance du bateau. Et puis après, c'est aussi la préservation du bateau. On fait en sorte à le... Voilà, sur 15 à 20 jours de mer, il peut se passer des choses. Donc on passe notre temps à vérifier que tout va bien, à réparer s'il y a des petites choses à réparer. Et puis aussi à prendre soin de nous, donc par le sommeil, mais par la nourriture, par l'hygiène au final à bord, qui est pas simple. Et voilà, donc c'est un quotidien assez particulier. Mais des sensations assez dingues de la solitude apporte ça. On rentre dans un espèce de mode un petit peu animal où on essaie de se préserver vachement de l'extérieur parce qu'on en a besoin, parce que c'est pas des rythmes faciles. Mais voilà, en gros le quotidien c'est un peu comme à la maison, c'est manger, dormir et faire avancer le bateau, mais c'est pas vraiment le même rythme.
C'est ça. Et oui. Et tu te sers un petit peu de tes expériences justement sur les autres courses auxquelles tu as pu déjà participer.
Ouais, effectivement, c'est de cette manière-là qu'on arrive à rentrer dans le rythme. C'est plus on passe de temps à naviguer en solo, plus on a l'expérience, plus on arrive à rentrer dans ces rythmes le plus rapidement possible. Et voilà quoi. Donc forcément, l'expérience a un vrai rôle là-dedans.
Pour manger dans tout ça, ça se passe comment?
Pour manger dans tout ça, ça se passe assez simplement d'une certaine manière. On a un jet boil à l'intérieur, donc un peu comme un réchaud de camping, entre guillemets. Donc, c'est la seule chose que j'ai dans la cuisine, je l'ai devant mes yeux là. Et en fait, on a des plats, il y a deux types de plats, les plats lyophilisés ou les plats apertisés. Les plats lyophilisés, c'est de la nourriture déshydratée qu'on réhydrate. Et les plats apertisés, c'est des plats qui sont sous vide au final, qui sont déjà hydratés, qui sont des vrais plats et qu'on réchauffe tout simplement au bain-marie. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup ça maintenant. Ça a beaucoup progressé, on a pas mal de choix et c'est quand même bien meilleur que les choses déshydratées, quoi.
Et oui, d'accord. Et tu es en lien, j'imagine, tout le long de la course avec toute une équipe finalement qui est à tes côtés. Comment ça se passe?
Alors non, on n'est pas vraiment en lien. Nous, on est vraiment complètement autonome. Les multicoques sont en lien, sont routés. Donc ils ont des routeurs à terre qui les aident sur la météo et tout ça. Nous, on est en autonomie complète. En revanche, voilà, si j'ai des gros problèmes techniques, je peux toujours appeler mon équipe technique ou mon architecte ou ainsi de suite pour m'aider dans les réparations de problèmes. En revanche, sur tout ce qui est performance du bateau, je suis vraiment en autonomie.
Eh oui, d'accord. C'est vraiment une solitude à part entière. Et alors, comment on se prépare vraiment, justement, pour affronter quelque part la mer et cette solitude?
Eh ben c'est alors comment on se prépare? On se prépare depuis 2 ans au final, hein. Ça a commencé par même 3 ans depuis la construction du bateau. Et puis là sur les derniers moments, on est beaucoup sur les routages météo, sur choisir ses trajectoires pour les premiers jours de course. Voilà, on a un début de course qui va être pas très drôle, assez musclé, un peu particulier avec une grosse dépression qui nous arrive dessus. En fait dès le départ quasiment. Donc avec 3-4 premiers jours qui vont être extrêmement complexes Et voilà, donc bah là pour l'instant on essaie de se reposer un maximum parce qu'on sait que la semaine prochaine on va pas dormir beaucoup.
Bon, et avec la voile qui a pris une place importante dans ta vie, le ski dans tout cela, Aurélien, tu continues quand même un petit peu de temps en temps?
Ouais, je continue le ski forcément, ça reste une de mes passions principales. On a même de nouveaux projets qui vont se développer en ski très rapidement. Je ne peux pas vraiment vous en parler, mais vous en saurez un peu plus en décembre. Mais à mon retour, mais non, je vis toujours à Chamonix et la montagne garde une place prépondérante dans ma vie, même si c'est vrai que le bateau a pris un peu plus de place que ces dernières années maintenant. Mais je tiens à garder mes attaches et mes racines en montagne, et donc je serai toujours sur les skis l'hiver avec de beaux projets.
Eh ben parfait, merci beaucoup Aurélien Ducrot, donc double champion du monde de ski freeride, on le rappelle, et puis donc skipper évidemment sur cette route du Rhum. Donc merci de nous avoir répondu si longtemps, c'est très très gentil à vous.
Avec plaisir, merci beaucoup.